7h11, on est bombardé d'actualités, d'informations de toutes parts. Puis honnêtement, ça évolue de jour en jour. Tu sais, on était le 15 octobre. On n'était même pas sûr si on allait permettre aux enfants de passer l'Halloween. On a eu la réponse du premier ministre hier et c'est pas venu avec juste une bonne nouvelle, c'est venu avec une mauvaise nouvelle. Il n'y aura pas de rassemblement à Noël. C'est ce qu'il a dit. Puis d'après moi, on est parti pour une traite là. Dans le mode de vie dans lequel on est plongé, là, ça risque d'être pour un bout de temps. Avec nous, notre chef du bureau politique à l'Assemblée nationale, notre meilleur, Louis Lacroix. Salut, Louis!
Salut, Michel.
Comment ça va ce matin?
Très bien, toi-même.
Oui, premièrement, on est-tu d'accord que le monde qui va manifester devant résidence personnelle du Dr Arruda, c'est pas fort?
Ben non, ça manque de classe. Écoute, c'est totalement inapproprié, ça tombe dans la vie privée... Moi, j'ai trouvé ça complètement déplacé. Ça n'a pas de bon sens de faire ça. On peut critiquer les décisions.
Tout à fait.
On peut les remettre en question. On peut manifester de façon appropriée, parce qu'au Québec, on a encore le droit de manifester. On a encore le droit à la dissidence, si on veut. Là. Puis c'est un droit démocratique qui est reconnu. Puis moi, j'ai pas de problème avec ça. Mais quand on tombe dans le personnel, d'aller manifester devant chez lui... ou encore de diffuser, parce que ça a été fait aussi, des renseignements personnels, son adresse ou quoi que ce soit. Là, moi, je trouve ça complètement déplacé. On fonctionne pas comme ça dans une démocratie. C'est de l'intimidation tant qu'à moi, puis ça n'a pas sa place.
C'est d'une bassesse incroyable. Content qu'on en ait parlé, j'en reviens même pas. Je lisais ça ce matin, je trouve ça terrible pour cet homme-là, qu'on soit d'accord ou non, lui, actuellement, là, sa vie... C'est la gestion de la crise du Québec. C'est ça qui fait envie.
C'est ça. Puis c'est des heures, on peut critiquer, mais imagine la complexité de la chose. Là. La façon dont ça fonctionne, c'est que lui, il fait des avis au gouvernement, mais avant de faire des avis au gouvernement, là, il consulte une batterie de gens. D'abord, toutes les régions du Québec, il y a 17 directions de la santé publique au Québec, il y en a une par région. Mm-hmm. Ces gens-là font leurs recommandations régionales selon la situation dans laquelle ils sont, là, des éclosions, etc., ce qu'ils vivent. Ensuite, lui prend tout ça, analyse ça avec les spécialistes de la Direction nationale de la santé publique, prend une décision et ensuite la transmet au premier ministre qui, lui...
tire la couverture de son bord bien souvent, probablement.
Oui, c'est ça. Puis est confronté à des réalités, évidemment, qui sont liées à la population puis au fait que est-ce qu'on confine, est-ce qu'on en fait trop, est-ce qu'on en fait pas assez. Le dernier mot, c'est le premier ministre qui l'a quand même, tu sais. Mm. Mais il reste que c'est pas un travail qui est simple et facile. Alors, c'est sûr que...
La dernière affaire qu'il a besoin, lui-là, c'est des petits clins.
C'est des loustiques qui s'en vont en avant de chez lui puis qui viennent l'écœur.
En faisant croire qu'il souhaite bonne fête, gang de cave. Bon, on l'a dit. Le PM, lui, hier, nous annonce qu'on peut passer l'Halloween, mais là, passer l'Halloween, pas avec tes amis, avec ton frère, si t'as pas de frère, avec ta sœur, si t'as pas de sœur, bien, tu seul.
Ta mère et ton père.
C'est pas évident, c'est pas clair. Puis il y a bien des villes, d'ailleurs, qui semblent pas être d'accord. Je lisais ça ce matin, il y a quelques villes déjà qui disent « On va pas dans ce sens-là, mais t'as pas le choix. » Une fois que le premier ministre s'est prononcé, tu peux pas empêcher les jeunes de passer l'Halloween, oui, là.
Ouais, mais en fait, on a compris l'année passée que l'Halloween, c'était de juridiction municipale. Souviens-toi, quand il faisait pas beau, puis c'est les villes qui ont décidé d'annuler l'Halloween, finalement. Là. Mm. Mais effectivement, mais écoute, c'est une question de gestion de risque, mais pas juste une question de gestion de risque de la maladie et transmission du virus. Il y a aussi à tenir en compte là-dedans... Et je pense que c'est ça qui modifie la position la position du premier ministre, c'est de dire, à un moment donné, là, tu peux pas tout enlever, tu peux pas tout couper, tu peux pas tout confiner, tu peux pas empêcher les gens non plus d'avoir une certaine vie, tu sais. Alors, dans ce temps-là, est-ce que t'es mieux de dire on le fait pas ou on l'encadre d'une certaine façon? Alors, moi, je pense que c'est la décision qu'ils ont prise, parce qu'en termes de santé mentale, c'est quand même une fête importante, l'Halloween. Je pense que l'Halloween, c'est aussi couru en temps normal que la fête de Noël, là, pour les enfants, c'est important. Puis, alors, je pense qu'ils ont pris ça en considération. Puis, ils ont aussi pris le fait que, même si tu l'interdis, écoute, il y avait 250 personnes dans une salle de bingo, là, la semaine passée. Là.
Ouais.
En fait, il y a quelques jours.
Ouais.
Alors, tu sais, si tu encadres pas les gens et tu leur dis pas ce qu'ils ont le droit de faire ou pas faire, il y a toujours des gens
qui vont se défier
puis qui vont se permettre des choses. Alors, moi, je pense qu'ils ont fait le calcul qu'il était plus approprié d'essayer d'encadrer que d'interdire.
Et c'est ça que Mark Hamilton a dit quand on compare le peuple québécois et le peuple suédois. Quand les autorités prennent une décision en Suède et on dit, bon, ben voici, on passe pas l'Halloween,
Bien,
il n'y a personne qui va défier. Ils vont tous comprendre, ils vont tous dire, OK, on passe pas l'Halloween. Mais au Québec, tu as tellement raison. Si le gouvernement disait hier, bon, ben finalement, on recommande pas de passer l'Halloween, passe pas l'Halloween, il va s'en trouver là, plusieurs partout au Québec là, qui vont faire tout le contraire puis qui vont lancer ce mouvement-là. C'est ça la distinction.
Les bingos, là, les rassemblements intérieurs sont interdits. Mais il y en a qui ont dit, ouais, mais ils n'ont pas dit que les bingos n'avaient pas le droit. Mais c'était, tu sais, donc, il y a toujours quelqu'un qui va pousser la limite.
Toujours.
Pour des intérêts personnels, bien souvent, là, tu sais. Alors, puis ça fait en sorte qu'on se retrouve dans des situations où il y a des gens qui sont infectés parce qu'ils se sont retrouvés dans une bombe. Alors, moi, je pense que c'est la décision qu'ils ont prise. Il y a aussi une question de santé mentale pour les enfants, de pas trop les sortir de la réalité, tu sais, parce que ce qu'on vit en ce moment, là, quand on va être sorti de là, on va en parler pendant longtemps, là, à nos petits-enfants.
Pas évident.
Donc, c'est une situation qui est exceptionnelle, qui n'est pas évidente, et je pense qu'ils ont voulu éviter des drames humains.
OK. On reparlera de Noël ensemble plus tard, parce qu'on va avoir l'occasion de le faire, évidemment. C'était la première semaine du nouveau chef du PQ, Paul Saint-Pierre Plamondon.
Oui.
En une minute et demie, mettons, là. Tu l'as trouvé comment, sa première semaine?
Bien, j'ai trouvé qu'évidemment, c'est une adaptation, là. Tu sais, lui, il sort de 9 mois de campagne où il était concentré sur ses enjeux à lui puis ceux de ses adversaires. J'ai trouvé que la première semaine, il avait l'air un peu déconnecté, là. Il s'est replacé un peu hier, mais je vais te dire, quand il est arrivé, c'était mercredi, en point de presse, puis j'ai posé la question à savoir est-ce que vous avez téléchargé l'application COVID Alert? Et il a dit non. Puis il connaissait pas la position de son parti là-dessus. T'sais. Alors, il a eu l'air un peu déconnecté. C'est pourtant une question qui a été débattue en commission parlementaire il y a quelques semaines. Son parti a pris une position assez importante. François Legault a même dit que la position était irresponsable. Donc, il aurait dû savoir où logeait le Parti québécois sur cet enjeu-là. Mais écoute, c'est complexe être chef de parti. Il s'en est rendu compte. Il s'est rendu compte aussi que la presse parlementaire, puis je veux rien enlever aux autres journalistes ailleurs
Non.
Mais sur les questions politiques, oui. Nous autres, là...
Vous êtes là-dedans tous les jours.
On est là-dedans tous les jours. On les connaît par cœur, les dossiers. Si je m'en vais faire de la politique municipale à Gatineau, là, je suis convaincu que vous allez être 1000 fois meilleur que moi, parce que je connais pas ça. Donc, il s'est rendu compte qu'affronter la presse parlementaire sur des dossiers politiques...
Il a vu que c'était une autre coche.
C'est difficile, parce que nous autres, on connaît les dossiers, on est dedans tout le temps. Alors là, il y a cette adaptation-là. Autrement... Écoute, il arrive dans une situation où il n'y a aucun des députés de l'aile parlementaire qui l'a appuyé.
Aucun. C'est pas drôle,
dans la
hein?
course.
Quand même.
Alors, puis il y a des raisons là-dedans. Bon, il y en a trois qui appuyaient Sylvain Gaudreau. Sylvain Gaudreau s'appuyait lui-même, en tout cas, j'espère.
Ouais.
Fait que ça en fait 4, ils sont 9. Il y avait 3 officiers là-dessus qui sont restés neutres. Puis il y en a 2 qui ont décidé qu'ils ne se prononçaient pas. Alors, à un moment donné, rendu à 9, là... Il y a personne qui l'a appuyé, donc il devait arriver puis essayer d'être conciliant puis d'adopter un ton conciliant. Il a mis le pied à terre sur la question du racisme systémique en disant lui il ne reconnaît pas le racisme systémique. Tu avais Sylvain Gaudreau, il y avait Véronique Yvon, Joël Arsenault qui avait dit qu'eux autres ils reconnaissaient l'existence du racisme systémique. Il a imposé, je pense qu'il devait faire ça. Il a imposé sa vision à lui parce qu'à un moment donné un chef c'est bien beau être conciliant, là. À un moment donné, je pose une question.
Il faut pas toujours aller
en parler à mon équipe. Ouais. Il ne faut pas toujours y aller avec l'équipe. Il faut que tu mettes le pied à terre et tu dises voici la position du parti. Tu sais. Alors, écoute, disons que ça a été. Il s'est rendu compte que c'était. Que la campagne était finie puis qu'il allait devoir ajuster son discours. Hier, moi, j'ai trouvé excellent sur la langue française. Il a tenu le discours qui est tenu par la position traditionnelle du Parti québécois sur la langue française en disant qu'à Montréal, investir dans le Collège Dawson puis dans la réfection de l'Université McGill pour avoir plus de place, c'était intenable sur le plan politique parce que c'est comme angliciser, si on veut, encore plus Montréal. Là-dessus, le discours se tient. On a beau pas être d'accord avec, le discours se tient. Le seul os dans son discours, c'est que lui-même a étudié à McGill. Alors,
c'est bon, ça faisait un peu particulier, mais
écoute, il y a plein de gens qui ont des contradictions dans la vie, ça les empêche pas d'avoir raison. Mais il reste que, moi, j'ai trouvé que, somme toute, là, ça a été un début de semaine un peu chancelant, mais c'est bien rattrapé par la suite. Et je pense que c'est quelqu'un de dynamique, c'est quelqu'un qui veut réussir, c'est quelqu'un qui est très intelligent. Paul Saint-Pierre Plamondon, on peut pas y enlever ça, là. C'est un homme très intelligent. Et si on lui donne la chance, je pense qu'il peut être un adversaire redoutable.
Mais pour tout de suite, pas, M. Legault n'a pas trop peur.
Non, c'est ça. Pour l'instant, de toute façon, il ne l'affrontera pas au Salon Bleu. Ça va être Pascal Bérubé encore. Alors,
tout à fait. OK, mon Louis, on va te souhaiter un bon week-end. Sois prudent. Hein?
Ben toujours.
Puis on se retrouvera la semaine prochaine, puis on explorera.
Tu sortis ton bateau de l'eau là?
Oui, tout est fait moi. Oui, tout est fait. Puis sais-tu quoi? J'ai même mis le bouchon derrière. Là,
pour c'est une bonne idée ça. C'est très utile.
Mon vieux Louis, François et toi, on se retrouve la semaine prochaine.
Salut.
Bye bye. Louis Lacroix, notre chef de bureau politique à l'Assemblée nationale de Cogeco Nouvelles. 7h22. On s'arrête là-dessus. Quelques manchettes. Au retour, le professeur et virologue Marc-André Langlois.